fall into big savings, all in the Kroger app.
Buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get three-pound packs of flavorful 80% lean ground beef for $2.99 a pound with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Septième section des comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac. Septième section.
Qu'allez-vous me faire voir ? Demanda Gazonal.
La preuve de ce que t'a dit Bixiou, répondit Léon, en te montrant une femme qui se fait 20 000 francs par an en exploitant une idée.
Une tireuse de cartes, dit Bixiou, qui ne put s'empêcher d'interpréter comme une interrogation l'air du méridional.
Madame Fontaine passe parmi ceux qui cherchent à connaître l'avenir pour être plus savante que ne l'était feu mademoiselle Lenormand.
Elle doit être bien riche, s'écria Gazonal.
Elle a été la victime de son idée.
Tant que la loterie a existé, répondit Bixiou. Car à Paris, il n'y a pas de grandes recettes sans grandes dépenses. Toutes les fortes têtes s'y fêlent, comme pour donner une soupape à leur vapeur. Tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont des vices ou des fantaisies, sans doute pour établir un équilibre.
Et maintenant que la loterie est abolie, demanda Gazonal, eh bien, elle a un neveu pour qui elle amasse.
Une fois arrivés, les trois amis aperçurent dans une des plus vieilles maisons de cette rue un escalier à marche palpitante, à contre-marche en boue raboteuse, qui les mena dans le demi-jour et par une puanteur particulière aux maisons à aller jusqu'au troisième étage à une porte que le dessin seul peut rendre, la littérature y devant perdre trop de nuit pour la peindre convenablement. Une vieille, en harmonie avec la porte, et qui peut-être était la porte animée, introduisit les trois amis dans une pièce servant d'antichambre où, malgré la chaude atmosphère qui baignait les rues de Paris, ils sentirent le froid glacial des cryptes les plus profondes. Il y venait un air humide d'une cour intérieure qui ressemblait à un vaste soupirail. Le jour y était gris, et sur l'appui de la fenêtre se trouvait un petit jardin plein de plantes malsaines. Dans cette pièce enduite d'une substance grasse et fuligineuse, les chaises, la table, tout avait l'air misérable. Le carreau suintait comme un alcarazas. Enfin, le moindre accessoire y était en harmonie avec l'affreuse vieille au nez crochu, à la face pâle et vêtue de haillons décents, qui dit aux consultants de s'asseoir en leur apprenant qu'on n'entrait que un à un chez « Madame ». Gazonal, qui faisait l'intrépide, entra bravement et se trouva devant l'une de ces femmes oubliées par la mort, qui, sans doute, les oublia dessein pour laisser quelques exemplaires d'elle-même parmi les vivants. C'était une face desséchée, où brillaient deux yeux gris d'une immobilité fatigante, un nez rentré, barbouillé de tabac, des osselets très bien montés par des muscles assez ressemblants, et qui, sous prétexte d'être des mains, battait nonchalamment des cartes, comme une machine dont le mouvement va s'arrêter. Le corps, une espèce de manche à balai, décemment couvert d'une robe, jouissait des avantages de la nature morte. Il ne remuait point. Sur le front s'élevait une coiffe en velours noir. Madame Fontaine, c'était une vraie femme, avait une poule noire à sa droite et un gros crapaud appelé Astaroth à sa gauche, que Gazonal ne vit pas tout d'abord. Le crapaud, d'une dimension surprenante, effrayé encore moins par lui-même que par deux topazes grandes comme des pièces de 50 centimes et qui jetaient deux lueurs de lampe. Il est impossible de soutenir ce regard. Comme disait feu l'assailli qui, couché dans la campagne, voulut avoir le dernier avec un crapaud par lequel il fut fasciné. Le crapaud est un être inexpliqué. Peut-être la création animale, y compris l'homme, s'y résume-t-il. Car, disait l'assailli, le crapaud vit indéfiniment, et comme on sait, c'est celui de tous les animaux créés dont le mariage dure le plus longtemps. La poule noire, avait sa cage à deux pieds de la table couverte d'un tapis vert, et y venait par une planche qui faisait comme un pont-levis entre la cage et la table. Quand cette femme, la moins réelle des créatures qui meublaient ce taudis hoffmanique, dit à Gazonal « Coupez !» L'honnête fabricant sentit un frisson involontaire. Ce qui rend ces créatures si formidables, c'est l'importance de ce que nous voulons savoir. On vient leur acheter de l'espérance, et elles le savent bien. L'antre de la Sibylle était beaucoup plus sombre que l'antichambre. On n'y distinguait pas la couleur du papier. Le plafond, noirci par la fumée, loin de refléter le peu de lumière que donnait la croisée obstruée de végétations maigres et pâles, en absorbait une grande partie. Mais ce demi-jour éclairait en plein la table à laquelle la sorcière était assise. Cette table, le fauteuil de la vieille et celui sur lequel siégeait Gazonal composaient tout le mobilier de cette petite pièce coupée en deux par une soupente, où couchait sans doute Madame Fontaine. Gazonal entendit par une petite porte entrebâillée le murmure particulier à un pot-au-feu qui bout. Ce bruit de cuisine, accompagné d'une odeur composite où dominait celle d'un évier, mêlait incongrûment l'idée des nécessités de la vie réelle aux idées d'un pouvoir surnaturel. C'était le dégoût dans la curiosité. Gazonal aperçut une marche en bois blanc, la dernière sans doute de l'escalier intérieur qui menait à la soupente. Il embrassa tous ces détails par un seul coup d'œil, et il eut des nausées. C'était bien autrement effrayant que les récits des romanciers et les scènes des drames allemands. C'était d'une vérité suffocante. L'air dégageait une pesanteur vertigineuse, l'obscurité finissait par agacer les nerfs. Quand le méridional, stimulé par une espèce de fatuité, regarda le crapaud, il éprouva comme une chaleur démétique au creux de l'estomac, en ressentant une terreur assez semblable à celle du criminel devant le gendarme. Il essaya de se réconforter en examinant Madame Fontaine, mais il rencontra deux yeux presque blancs, dont les prunelles immobiles et glacées lui furent insupportables. Le silence devint alors effrayant. « Que voulez-vous, monsieur ? » dit Madame Fontaine à Gazonal. « Le jeu de 5 francs, le jeu de 10 francs, ou le grand jeu ?»
Le jeu de 5 francs est déjà bien assez cher, répondit le méridional, qui faisait en lui-même des efforts inouïs pour ne pas se laisser impressionner par le milieu dans lequel il se trouvait. Au moment où Gazonal essayait de se recueillir, une voix infernale le fit sauter sur son fauteuil. La poule noire caquetait. Va-t'en, ma fille, va-t'en. Monsieur ne veut dépenser que 5 francs. Et la poule parut avoir compris sa maîtresse, car, après être venue à un pas des cartes, elle alla se remettre gravement à sa place. « Quelle fleur aimez-vous ? » demanda la vieille d'une voix enrouée par les humeurs qui montaient et descendaient incessamment dans ses bronches. « La rose. »« Quelle couleur affectionnez-vous ? » ?»«
Le bleu. » »«
Quel animal préférez-vous ? » ?»«
Le cheval. » »«
Pourquoi ces questions ? » demanda-t-il à son tour.
« L'homme tient à toutes les formes par ses états antérieurs, » dit-elle sentencieusement. « De là viennent ses instincts, et ses instincts dominent sa destinée. Que mangez-vous avec le plus de plaisir ? Le poisson, le gibier, les céréales, la viande de boucherie, les douceurs, les légumes ou les fruits ?»
« Le gibier.
En quel mois êtes-vous né ?
Septembre.
Avancez votre main. »
Madame Fontaine regarda fort attentivement les lignes de la main qui lui étaient présentées. Tout cela se fit sérieusement, sans préméditation de sorcellerie, et avec la simplicité qu'un notaire aurait mis à s'enquérir des intentions d'un client avant de rédiger un acte. Les cartes, suffisamment mêlées, elle pria Gazonal de couper et de faire lui-même 3 paquets. Elle reprit les paquets, les étala l'un au-dessus de l'autre, les examina comme un joueur examine les 36 numéros de la roulette, avant de risquer sa mise. Gazonal avait les os gelés. Il ne savait plus où il se trouvait.
mais son étonnement alla croissant lorsque cette affreuse vieille, à capote verte, grasse et plate, dont le faux tour laissait voir beaucoup plus de rubans noirs que de cheveux frisés, en point d'interrogation, lui débita de sa voix chargée de pituite toutes les particularités, même les plus secrètes, de sa vie antérieure, lui raconta ses goûts, ses habitudes, son caractère, les idées mêmes de son enfance, tout ce qui pouvait avoir influé sur lui, son mariage manqué, pourquoi, avec qui, la description exacte de la femme qu'il avait aimée, et enfin de quel pays il était venu, son procès, etc. Gazonal crut à une mystification préparée par son cousin, mais l'absurdité de cette conspiration lui fut aussitôt démontrée que l'idée lui en vint, et il resta béant devant ce pouvoir vraiment infernal dont l'incarnation empruntait à l'humanité ce que de tout temps l'imagination des peintres et des poètes a regardé comme la chose la plus épouvantable. Une atroce petite vieille, poussive, édentée, aux lèvres froides, au nez camard, aux yeux blancs. La prunelle de Madame Fontaine s'était animée. Il y passait un rayon jailli des profondeurs de l'avenir ou de l'enfer. Gazonal demanda machinalement en interrompant la vieille à quoi lui servaient le crapaud et la poule. « À pouvoir prédire l'avenir. » Le consultant jette lui-même des grains au hasard sur les cartes. Bilouche vient les becqueter. Astaroth se traîne dessus pour aller chercher sa nourriture que le client lui tend. Et ces deux admirables intelligences ne se sont jamais trompées. Voulez-vous les voir à l'ouvrage? Vous saurez votre avenir. C'est 100 francs. Gazonal, effrayé des regards d'Astaroth, se précipita dans l'antichambre après avoir salué la terrible Madame Fontaine. Il était en moiteur et comme sous l'incubation infernale du mauvais esprit. « Allons-nous-en, » dit-il aux deux artistes. « Avez-vous jamais consulté cette sorcière ?»« Je ne fais rien d'important sans faire causer Astaroth, » dit Léon, « et je me suis toujours bien trouvé. »« J'attends la fortune honnête que Bilouche m'a promise, » dit Bixiou. « J'ai la fièvre, » s'écria le méridional. « Si je croyais à ce que vous me dites, je croirais donc à la sorcellerie, à un pouvoir surnaturel. »« Ça peut n'être que naturel, » répliqua Bixiou. « Le tiers des lorettes, » le quart des hommes d'État, la moitié des artistes, consultent Madame Fontaine, et l'on connaît un ministre à qui elle sert d'égérie. T'a-t-elle dit l'avenir? Reprit Léon. Non, j'en ai eu assez de mon passé. Mais si elle peut, à l'aide de ses affreux collaborateurs, prédire l'avenir, reprit Gazonal, saisi par une idée, comment pouvait-elle perdre à la loterie? Ah! Tu mets le doigt sur l'un des plus grands mystères des sciences occultes, répondit Léon. Dès que cette espèce de glace intérieure où se reflète pour eux l'avenir ou le passé se trouble sous l'haleine d'un sentiment personnel, d'une idée quelconque étrangère à l'acte du pouvoir qu'ils exercent, sorcier ou sorcière n'y voit plus rien. De même que l'artiste qui souille l'art par une combinaison politique ou systématique perd son talent. Il y a quelque temps, un homme doué du don de divination par les cartes, le rival de Madame Fontaine, et qui s'adonnait à des pratiques criminelles, n'a pas su se tirer les cartes à lui-même et voir qu'il serait arrêté, jugé, condamné en cour d'assises. Madame Fontaine, qui prédit l'avenir 8 fois sur 10, n'a jamais su qu'elle perdrait sa mise à la loterie. « Il en est ainsi en magnétisme, » fit observer Bixiou. « L'on ne se magnétise pas soi-même. »« Bon, voilà le magnétisme, » s'écria Gazonal. « Ah ça, vous connaissez donc tout ?» « Ami Gazonal, » répliqua gravement Bixiou, « pour pouvoir rire de tout, il faut tout connaître. Quant à moi, je suis à Paris depuis mon enfance et mon crayon m'y fait vivre des ridicules à 5 caricatures par mois. Je me moque ainsi très souvent d'une idée à laquelle j'ai foi. « Passons à d'autres exercices, » dit Léon. « Allons à la chambre où nous arrangerons l'affaire du cousin. » Ceci, dit Bixiou en imitant Audry et Gaillard, est de la haute comédie, car nous ferons poser le premier orateur que nous rencontrerons dans la salle des pas perdus, et vous reconnaîtrez là, comme ailleurs, le langage parisien qui n'a jamais que 2 rythmes, l'intérêt ou la vanité. En remontant en voiture, Léon aperçut dans un cabriolet qui passait rapidement un homme à qui, d'un signe de main, il fit comprendre qu'il voulait lui dire un mot. C'est Publicola Masson, dit Léon à Bixiou. Je vais lui demander séance pour ce soir, à 5 heures, après la chambre. Le cousin aura le plus curieux de tous les originaux.
Qui est-ce ? Demanda Gazonal pendant que Léon parlait à Publicola Masson.
Un pédicure, auteur d'un traité de corporistique, qui vous fait vos corps par abonnement et qui, si les républicains triomphent pendant 6 mois, deviendra certainement immortel.
En voiture, s'écria Gazonal.
Mais, ami Gazonal, il n'y a que les millionnaires qui ont assez de temps à eux pour aller à pied, à Paris.
À la chambre, cria Léon au cocher.
Laquelle, monsieur ?
Des députés, répondit Léon, après avoir échangé un sourire avec Bixiou.
Paris commence à me confondre, dit Gazonal.
Pour vous en faire connaître l'immensité morale, politique et littéraire, nous agissons en ce moment comme le Cicérone romain, qui vous montre à Saint-Pierre le pouce de la statue que vous avez cru de grandeur naturelle. Vous le trouvez grand d'un pied.
Vous n'avez pas encore mesuré l'un des orteils de Paris ?
Et remarquez, cousin Gazonal, que nous prenons ce qui se rencontre, nous ne choisissons pas.
Ce soir tu souperas comme on festinait chez Balthazar, et tu verras notre Paris à nous, jouant au lansquenet et hasardant 100 000 francs d'un coup, sans sourciller.
Un quart d'heure après, la citadine s'arrêtait au bas des degrés de la Chambre des députés, de ce côté du pont de la Concorde qui mène à la Discorde. Fin de la 7e section.
Huitième section des comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac. 8e section.
Je croyais la chambre inabordable, dit le méridional, surpris de se trouver au milieu de la grande salle des pas perdus.
C'est selon, répondit Bixiou, matériellement parlant. Il en coûte 30 sous de cabriolet. Politiquement, on dépense quelque chose de plus. Les hirondelles ont pensé, a dit un poète, que l'on avait bâti l'arc de triomphe de l'étoile pour elles. Nous pensons, nous autres artistes, qu'on a bâti ce monument-ci pour compenser les non-valeurs du théâtre français et nous faire rire. Mais ces comédiens-là coûtent beaucoup plus cher et ne nous en donnent pas tous les jours pour notre argent.
Voilà donc la chambre, répétait Gazonal. Et il arpentait la salle où se trouvaient en ce moment une dizaine de personnes, en y regardant tout d'un air que Bixiou gravait dans sa mémoire pour en faire une de ses célèbres caricatures avec lesquelles il lutte contre Gavarni.
Léon alla parler à l'un des huissiers qui vont et viennent constamment de cette salle dans celle des séances, à laquelle elle communique par le couloir où se tiennent les sténographes du moniteur et quelques personnes attachées à la chambre. Quant au ministre, répondit l'huissier à Léon au moment où Gazonal se rapprocha d'eux, il y est.
Mais je ne sais pas si M. Giraud s'y trouve encore. Je vais voir.
Quand l'huissier ouvrit l'un des battants de la porte par laquelle il n'entre que des députés, des ministres ou des commissaires du roi, Gazonal en vit sortir un homme qui lui parut jeune encore, quoiqu'il eût 48 ans, et à qui l'huissier indiqua Léon de Lora.
Ah, vous voilà, dit-il en allant donner une poignée de main à Léon et à Bixiou.
« Drôle. Que venez-vous faire dans le sanctuaire des lois ?»«
Parbleu. Nous venons apprendre à blaguer, dit Bixiou. L'on se rouillerait sans cela. »«
Passons alors dans le jardin, répliqua le jeune homme, sans croire que le méridional fût de la compagnie. En voyant cet inconnu bien vêtu, tout en noir, et sans aucune décoration, Gazonal ne savait dans quelle catégorie politique le classer. Mais il le suivit dans le jardin contigu à la salle et qui longe le quai jadis appelé quai Napoléon. Une fois dans le jardin, le ci-devant jeune homme donna carrière à un rire qu'il comprimait depuis son entrée dans la salle des pas perdus.
« Qu'as-tu donc ? » lui dit Léon de Lora.
« Mon cher ami, pour pouvoir établir la sincérité du gouvernement constitutionnel, nous sommes forcés à commettre d'effroyables mensonges avec un aplomb incroyable. Mais moi, je suis journalier. S'il y a des jours où je mens, comme un programme, il y en a d'autres où je ne peux pas être sérieux. Je suis dans mon jour d'hilarité. Or, en ce moment, le chef du cabinet, sommé par l'opposition de livrer les secrets de la diplomatie, est en train de faire ses exercices à la tribune, et comme il est honnête homme, qu'il ne ment pas pour son compte, il m'a dit à l'oreille avant de monter à l'assaut « Je ne sais quoi leur débiter ». En le voyant là, le fou rire m'a pris, et je suis sorti, car on ne peut pas rire au banc des ministres, où ma jeunesse me revient parfois intempestivement. « Enfin, s'écria Gazonal, je trouve un honnête homme dans Paris. Vous devez être un homme bien supérieur, dit-il en regardant l'inconnu. « Ah, ça, qui est monsieur ? » dit le ci-devant jeune homme en examinant Gazonal. « Mon cousin, répliqua vivement Léon, je réponds de son silence et de sa probité comme de moi-même. C'est lui qui nous amène ici, car il a un procès administratif qui dépend de ton ministère. Son préfet veut tout bonnement le ruiner, et nous sommes venus te voir pour empêcher le Conseil d'État de consommer une injustice. Quel est le rapporteur ? Massol. Bon. Et nos amis Giraud et Claude Vignon sont dans la section, dit Bixiou. Dis-leur un mot et qu'ils viennent ce soir chez Carabine, où Du Tillet donne une fête à propos de Railways, car on détrousse maintenant plus que jamais sur les chemins, ajouta Léon. Ah, ça, mais c'est dans les Pyrénées ? Demanda le jeune homme devenu sérieux. Oui, dit Gazonal. « Et vous ne votez pas pour nous dans les élections ?» dit l'homme d'étain en regardant Gazonal. « Non, mais après ce que vous venez de dire devant moi, vous m'avez corrompu. Foi de commandant de la garde nationale, je vous fais nommer votre candidat. »« Eh bien, peux-tu garantir encore ton cousin ?» demanda le jeune homme à Léon. « Nous le formons, » dit Bixiou d'un ton profondément comique. « Eh bien, je verrai, » dit ce personnage en quittant ses amis et retournant avec précipitation à la salle des séances. « Ah, ça, qui est-ce ? » demanda Gazonal. « Eh bien, le comte de Rastignac, le ministre dans le département de qui se trouve ton affaire. »« Un ministre ? C'est pas plus que cela ? » ?»« Mais c'est un vieil ami à nous. Il a 300 000 livres de rente. Il est pair de France. Le roi l'a fait comte. C'est le gendre de Nucingen, et c'est un des 2 ou 3 hommes d'État enfantés par la Révolution de Juillet. Mais le pouvoir l'ennuie quelquefois. » Et il vient rire avec nous. Ah ça, cousin, tu ne nous avais pas dit que tu étais de l'opposition là-bas ? Demanda Léon en prenant Gazonal par le bras. Es-tu bête ? Qu'il y ait un député de plus ou de moins à gauche ou à droite, cela te met-il dans de meilleurs draps ? Nous sommes pour les autres. Laissez-les, dit Bixiou tout aussi comiquement que l'eût dit Montrose. Ils ont pour eux la Providence, elle les ramènera bien sans vous et malgré eux. Un fabricant doit être fataliste. Bon. « Voilà Maxime avec Canalis et Giraud, » s'écria Léon. « Venez, ami Gazonal, les acteurs promis arrivent en scène, » lui dit Bixiou. Et tous trois, ils s'avancèrent vers les personnages indiqués, qui paraissaient quasi désœuvrés. « Vous a-t-on envoyé promener, que vous allez comme ça ?» dit Bixiou à Giraud. « Non, l'on vote au scrutin secret, » répondit Giraud. « Et comment le chef de cabinet s'en est-il tiré ?»« Il a été magnifique, » dit Canalis. « Magnifique, » répéta Giraud. « Magnifique !» dit Maxime. « Ah, ça, la droite, la gauche, le centre sont unanimes ?»« Nous avons tous une idée différente, » fit observer Maxime de Trailles, député ministériel. « Oui, » reprit Canalis en riant, le député qui siégeait vers la droite, quoiqu'il eût été déjà ministre. « Ah, vous avez eu tout à l'heure un beau triomphe, » dit Maxime à Canalis, « car c'est vous qui avez forcé le ministre à monter à la tribune, et à mentir comme un charlatan. » répliqua Canalis. La belle victoire, répondit l'honnête Giraud. À sa place, qu'auriez-vous fait? J'aurais menti. Ça ne s'appelle pas mentir, dit Maxime de Trailles. Cela s'appelle couvrir la couronne. Et il emmena Canalis à quelques pas de là. C'est un bien grand orateur, dit Léon à Giraud en lui montrant Canalis. Oui et non, répondit le conseiller d'État. Il est creux, il est sonore, c'est plutôt un artiste en parole qu'un orateur. Enfin, c'est un bel instrument, mais ce n'est pas la musique. Aussi n'a-t-il pas, et n'aura-t-il jamais l'oreille de la chambre. Il se croit nécessaire à la France, mais dans aucun cas, il ne peut être l'homme de la situation. Canalis et Maxime étaient revenus vers le groupe au moment où Giraud, le député du centre-gauche, venait de prononcer cet arrêt. Maxime prit Giraud par le bras, et l'entraîna loin du groupe pour lui faire peut-être les mêmes confidences qu'à Canalis. « Quel honnête et digne garçon !» dit Léon en désignant Giraud à Canalis. « C'est de ses probités qui tuent les gouvernements, »
répondit Canalis.
À votre avis, est-ce un bon orateur ?
Oui et non, répondit Canalis. Il est verbeux, il est filandreux. C'est un ouvrier en raisonnement, c'est un bon logicien, mais il ne comprend pas la grande logique, celle des événements et des affaires. Aussi n'a-t-il pas, et n'aura-t-il jamais, l'oreille de la chambre.
Au moment où Canalis portait cet arrêt sur Giraud, celui-ci revint avec Maxime vers le groupe, et, oubliant qu'il se trouvait un étranger dont la discrétion ne leur était pas connue, comme celle de Léon et de Bixiou, il prit la main à Canalis d'une façon significative.
« Eh bien, lui dit-il, je consens à ce que propose monsieur le comte de Trailles. Je vous ferai l'interpellation. »
Nous aurons alors la chambre à nous dans cette question, car un homme de votre portée et de votre éloquence a toujours l'oreille de la chambre, répondit Canalis.
Je répondrai, vous pourrez décider un changement de cabinet, car vous ferez sur un semblable terrain tout ce que vous voudrez de la chambre, et vous deviendrez l'homme de la situation.
Maxime les a mis dedans tous les deux, dit Léon à son cousin. Ce gaillard-là se trouve dans les intrigues de la chambre comme un poisson dans l'eau.
« Qui est-ce ? » demanda Gazonal.
« Un ex-coquin, » répondit Bixiou.
« Giraud ? » cria Léon, conseiller d'État. « Ne vous en allez pas sans avoir demandé à Rastignac ce qu'il m'a promis de vous dire relativement à un procès que vous jugez après-demain et qui regarde mon cousin. »
Et les trois amis suivirent les trois hommes politiques à distance en se dirigeant vers la salle des pas perdus.
« Tiens, cousin, regarde ces deux hommes, » dit Léon à Gazonal, en lui montrant un ancien ministre fort célèbre et le chef du centre-gauche. Voilà deux orateurs qui ont l'oreille de la chambre et qu'on a plaisamment surnommés des ministres au département de l'opposition. Ils ont si bien l'oreille de la chambre qu'ils la lui tirent fort souvent.
Il est 4 heures. Revenons rue de Berlin, dit Bixiou.
Oui, tu viens de voir le cœur du gouvernement. Il faut en montrer les Helmintes, les Ascarides, le Ténia, le républicain, puisqu'il faut l'appeler par son nom, dit Léon à son cousin.
Une fois les trois amis emballés dans leur fiacre, Gazonal regarda railleusement son cousin et Bixiou, comme un homme qui voulait lâcher un flot de bile oratoire et méridional.
Je me défiais bien de cette grande bagasse de ville, mais depuis ce matin je la méprise. La pauvre province tant mesquine est une honnête fille, mais Paris c'est une prostituée, avide, menteuse, comédienne, et je suis bien content de n'y avoir rien laissé de ma peau.
La journée n'est pas finie, dit sentencieusement Bixiou qui cligna de l'œil en regardant Léon.
Et pourquoi te plains-tu bêtement, dit Léon, d'une prétendue prostitution à laquelle tu vas devoir le gain de ton procès? Te crois-tu plus vertueux que nous et moins comédien, moins avide, moins facile à descendre une pente quelconque, moins vaniteux que tous ceux avec qui nous avons joué comme avec des pantins?
Essayez de m'entamer, pauvre garçon, dit Léon, en haussant les épaules. N'as-tu pas déjà promis ton influence électorale à Rastignac?
Oui, parce qu'il est le seul qui se soit mis à rire de lui-même.
Pauvre garçon, répéta Bixiou, vous me défiez, moi qui n'ai fait que rire? Vous ressemblez à un roquet impatientant à un tigre.
Ah, si vous nous aviez vus, nous moquant de quelqu'un, savez-vous que nous pouvons rendre fou un homme sain d'esprit?
Cette conversation mena Gazonal jusque chez son cousin, où la vue des richesses mobilières lui coupa la parole et mit fin à ce débat. Le méridional s'aperçut, mais plus tard, que Bixiou l'avait déjà fait poser. À 5h30, au moment où Léon de Lora faisait sa toilette pour le soir, au grand ébahissement de Gazonal, qui nombrait les 1001 superfluités de son cousin et qui admirait le sérieux du valet de chambre en fonction, on annonça le pédicure de monsieur. Publicola Masson, petit homme de 50 ans, dont la figure rappelle celle de Marat, fit son entrée en déposant une petite boîte d'instruments et en se mettant sur une petite chaise en face de Léon, après avoir salué Gazonal et Bixiou.
« Comment vont les affaires ? » lui demanda Léon, en lui livrant un de ses pieds déjà préalablement lavé par le valet de chambre.
Mais je suis forcé d'avoir deux élèves, deux jeunes gens qui, désespérant de la fortune, ont quitté la chirurgie pour la corporistique. Ils mouraient de faim, et cependant ils ont du talent.
Oh, je ne vous parle pas des affaires pédestres, je vous demande où vous en êtes de vos affaires politiques. »
Masson lança sur Gazonal un regard plus éloquent que toute espèce d'interrogation.
« Oh, parlez, c'est mon cousin, et il est presque des vôtres. Il est légitimiste. »
« Eh bien, nous allons, nous marchons. Dans 5 ans d'ici, l'Europe sera tout à nous. La Suisse et l'Italie sont chaudement travaillées, et vienne la circonstance, nous sommes prêts. Ici, nous avons 50 000 hommes armés, sans compter les 200 000 citoyens qui sont sans le sou. »
« Bah, dit Léon, et les fortifications ?»«
Des croûtes de pâté qu'on avalera, » répondit Masson. « D'abord, nous ne laisserons pas venir les canons, et puis nous avons une petite machine plus puissante que tous les forts du monde, une machine due aux médecins, qui a guéri plus de monde que les médecins n'ont tué dans le temps où elle fonctionnait. »«
Comme vous y allez, » dit Gazonal, à qui l'air de Publicola donnait la chair de poule.
« Ah, il faut cela. Nous venons après Robespierre et Saint-Just. C'est pour faire mieux. »
Ils ont été timides, car vous voyez ce qui nous est arrivé. Un empereur, la branche aînée et la branche cadette. Ils n'avaient pas assez émondé l'arbre social.
Ah, ça, vous qui serez, dit-on, consul ou quelque chose comme tribun, songez bien, dit Bixiou, que je vous ai depuis 12 ans demandé votre protection.
Il ne vous arrivera rien, car il nous faudra des loustiques, et vous pourrez prendre l'emploi de barère, répondit le pédicure.
Et moi, dit Léon.
Ah, vous, vous êtes mon client, c'est ce qui vous sauvera, car le génie est un odieux privilège à qui l'on accorde trop en France, et nous serons forcés de démolir quelques-uns de nos grands hommes pour apprendre aux autres à savoir être simples citoyens. »
Le pédicure parlait d'un air moitié sérieux, moitié badin, qui faisait frissonner Gazonal.
« Ainsi, dit le méridional, plus de religion. »«
Plus de religion de l'État, » reprit le pédicure en soulignant les deux derniers mots. « Chacun aura la sienne. » C'est fort heureux qu'on protège en ce moment les couvents. Ça nous prépare les fonds de notre gouvernement. Tout conspire pour nous. Ainsi, tous ceux qui plaignent les peuples, qui braillent sur la question des prolétaires et des salaires, qui font des ouvrages contre les jésuites, qui s'occupent de l'amélioration de n'importe quoi, les communistes, les humanitaires, vous comprenez, tous ces gens-là sont notre avant-garde. Pendant que nous amasserons de la poudre, ils tressent la mèche à laquelle l'étincelle d'une circonstance mettra le feu.
« Ah, ça, que voulez-vous donc pour le bonheur de la France ?» demanda Gazonal.
« L'égalité pour les citoyens, le bon marché de toutes les denrées, nous voulons qu'il n'y ait plus de gens manquant de tout, et des millionnaires, des suceurs de sang et des victimes. »
« C'est ça, le maximum et le minimum, » dit Gazonal.
« Vous avez dit la chose, » répliqua nettement le pédicure.
« Plus de fabricants ?» demanda Gazonal.
« On fabriquera pour le compte de l'État. » Nous serons tous usufruitiers de la France. On y aura sa ration comme sur un vaisseau, et tout le monde y travaillera selon ses capacités.
« Bon, dit Gazonal, et en attendant que vous puissiez couper la tête aux aristocrates,
je leur rogne les ongles, dit le républicain radical, qui serrait ses outils et qui finit la plaisanterie lui-même. Il salua très poliment et sortit.
« Est-ce possible ? En 1845 ? S'écria Gazonal.
« Si nous en avions le temps, nous te montrerions, répondit le paysagiste, tous les personnages de 1793. Tu causerais avec eux. Tu viens de voir Marat. Eh bien, nous connaissons Fouquier-Tinville, Collot d'Herbois, Robespierre, Chabot, Fouché, Barras, et il y a même une Madame Roland.
Allons, dans cette représentation, le tragique n'a pas manqué, dit le méridional.
Il est 6 heures. Avant que nous ne te menions voir les saltimbanques que joue Audry ce soir, dit Léon à son cousin, il est nécessaire d'aller faire une visite à Madame Cadine, une actrice que cultive beaucoup ton rapporteur Massol et à qui tu auras ce soir à faire une cour assidue.
Comme il faut vous concilier cette puissance, je vais vous donner quelques instructions, reprit Bixiou.
Employez-vous des ouvrières à votre fabrique?
Certainement, répondit Gazonal.
« Voilà tout ce que je voulais savoir, » dit Bixiou.
« Vous n'êtes pas marié, vous êtes un gros... »«
Oui, » s'écria Gazonal.
« Vous avez deviné mon fort, j'aime les femmes. » »«
Eh bien, si vous voulez exécuter la petite manœuvre que je vais vous prescrire, vous connaîtrez sans dépenser un liard les charmes qu'on goûte dans l'intimité d'une actrice. »
En arrivant rue de la Victoire, où demeure la célèbre actrice, Bixiou,
qui méditait une espièglerie contre le défiant Gazonal, avait à peine achevé de lui tracer son rôle. Mais le méridional avait, comme on va le voir, compris à demi-mot. Les trois amis montèrent au deuxième étage d'une assez belle maison et trouvèrent Jenny Cadine achevant de dîner, car elle jouait dans la pièce donnée en second au gymnase. Après la présentation de Gazonal à cette puissance, Léon et Bixiou, pour le laisser seul avec elle, trouvèrent le prétexte d'aller voir un nouveau meuble. Mais avant de quitter l'actrice, Bixiou lui avait dit à l'oreille « C'est le cousin de Léon, un fabricant riche à millions, et qui, pour gagner son procès au Conseil d'État contre le préfet, juge à propos de vous séduire. Tout Paris connaît la beauté de cette jeune première. On comprendra donc la stupéfaction du méridional en la voyant. D'abord, reçu presque froidement, il devint l'objet des bonnes grâces de Jenny Cadine pendant les quelques minutes où ils restèrent seuls. « Comment ?» dit Gazonal en regardant avec dédain le mobilier du salon par la porte que ses complices avaient laissée entr'ouverte et en supputant ce que valait celui de la salle à manger. « Comment laisse-t-on une femme comme vous dans un pareil chenil ?»« Ah, voilà, que voulez-vous ? Ma seule n'est pas riche. J'attends qu'il devienne ministre. »« Quel homme heureux !» s'écria Gazonal en poussant un soupir d'homme de province. « Bon, se dit en elle-même l'actrice, mon mobilier sera renouvelé, je pourrai donc lutter avec Carabine. »« Eh bien, dit Léon en rentrant, vous viendrez chez Carabine ce soir, on y soupe, on y lance quenette. » « Monsieur y sera-t-il ? » dit gracieusement et naïvement Jenny Cadine. « Oui, madame, fit Gazonal, ébloui de ce rapide succès. « Mais ma seule y vient, repartit Bixiou. « Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? » répliqua Jenny. « Mais partons, mes bijoux, il faut que j'aille à mon théâtre. » Gazonal donna la main à l'actrice jusqu'à la citadine qui l'attendait, et il la lui pressait si tendrement que Jenny Cadine répondit en se secouant les doigts. « Et je n'en ai pas de rechange. » Quand il fut dans la voiture, Gazonal essaya de serrer Bixiou par la taille en s'écriant « Elle a mordu. Vous êtes un fier scélérat. »« Les femmes le disent, » répliqua Bixiou. À 11h30, après le spectacle, une citadine emmena les trois amis chez mademoiselle Séraphine Siné, plus connue sous le nom de Carabine, un de ces noms de guerre que prennent les illustres lorettes ou qu'on leur donne, et qui venait peut-être de ce qu'elle avait toujours tué son pigeon. Carabine, devenue presque une nécessité pour le fameux banquier du Tillet, député du centre-gauche, habitait alors une charmante maison de la rue Saint-Georges. Il est dans Paris des maisons dont les destinations ne varient pas, et celle-ci avait déjà vu sept existences de courtisanes. Un agent de change y avait logé vers 1827, Suzanne Duval-Noble, devenue depuis Madame Gaillard. La fameuse Esther y fit faire au baron de Nucingen les seules folies qu'il ait faites. Florine, puis celle qu'on nommait plaisamment Feu Madame Schontz, y avait tour à tour brillé. Ennuyé de sa femme, Du Tillet avait acquis cette petite maison moderne et y avait installé l'illustre Carabine, dont l'esprit vif, les manières cavalières, le brillant dévergondage formait un contrepoids aux travaux de la vie domestique, politique et financière. Que Du Tillet ou Carabine fussent ou ne fussent pas au logis, la table était servie et splendidement, pour 10 couverts tous les jours. Les artistes, les gens de lettres, les journalistes, les habitués de la maison y mangeaient. On y jouait le soir. Plus d'un membre de l'une et l'autre chambre venait chercher là ce qui s'achète au poids de l'or à Paris. Le plaisir. Les femmes excentriques, ces météores du firmament parisien qui se classent si difficilement, apportaient là les richesses de leurs toilettes. On y était très spirituel, car on y pouvait tout dire, et on y disait tout. Carabine, rivale de la non moins célèbre Malaga, s'était enfin portée héritière du salon de Florine, devenue Madame Nathan, de celui de Tullia, devenue Madame du Bruel, de celui de Madame Schontz, devenue la femme d'un président en province. En y entrant, Gazonal ne dit qu'un seul mot, mais il était à la fois légitime et légitimiste. C'est plus beau qu'aux Tuileries. Le satin, le velours, les brocarts, l'or, les objets d'art qui foisonnaient,
occupèrent si bien les yeux du provincial qu'il n'aperçut pas Jenny Cadine dans une toilette à inspirer du respect et qui, caché derrière carabine, étudiait l'entrée du plaideur en causant avec elle. « Ma chère enfant, dit Léon, voilà mon cousin, un fabricant qui m'est tombé des Pyrénées ce matin. Il ne connaissait rien encore de Paris. Il a besoin de ma solde pour un procès au Conseil d'État. Nous avons donc pris la liberté de vous amener Monsieur Gazonal à souper, en vous recommandant de lui laisser toute sa raison. » Comme monsieur voudra. Le vin est cher, dit Carabine, qui toisa Gazonal et ne vit en lui rien de remarquable. Gazonal, étourdi par les toilettes, les lumières, l'or et le babil des groupes qu'il croyait occupés de lui, ne put que balbutier ces mots. « Madame, madame est bien bonne. Que fabriquez-vous ? » lui demanda la maîtresse du logis en souriant. « Des dentelles, et offrez-lui des guipures, » souffla Bixiou dans l'oreille de Gazonal. « Des dents, des... Vous êtes dentiste ? » ?»« Dis donc, Cadine, un dentiste, tu es volée, ma petite. » « Des dentelles, » reprit Gazonal, en comprenant qu'il fallait payer son souper. « Je me ferai le plus grand plaisir de vous offrir une robe, une écharpe, une mantille de ma fabrique. »« Ah, trois choses ? Eh bien, vous êtes plus gentil que vous n'en avez l'air, » répliqua Carabine. « Paris m'a pincé, » se dit Gazonal en apercevant Jenny Cadine et en allant la saluer. « Et moi, qu'aurais-je ? » lui demanda l'actrice. « Mais toute ma fortune, » répondit Gazonal, qui pensa que tout offrir, c'était ne rien donner. Massol, Claude Vignon, Du Tillet, Maxime de Trailles, Nucingen, Dubruel, Malaga, Monsieur et Madame Gaillard, Vauvinet, une foule de personnes entra. Après une conversation à fond avec le fabricant sur le procès, Massol, sans rien promettre, lui dit que le rapport était à faire et que les citoyens pouvaient se confier aux Lumières et à l'indépendance du Conseil d'État. Sur cette froide et digne réponse, Gazonal, désespéré, crut nécessaire de séduire la charmante Jenny Cadine de laquelle il était éperdument amoureux. Léon de Lora, Bixiou, laissèrent leur victime entre les mains de la plus espiègle des femmes de cette société bizarre, car Jenny Cadine est la seule rivale de la fameuse Déjazé. À table, où Gazonal fut fasciné par une argenterie due au Benvenuto Cellini moderne, à Froment Maurice, et dont le contenu valait les intérêts du contenant, les domicificateurs eurent soin de se placer loin de lui. Mais ils suivirent d'un œil sournois les progrès de la spirituelle actrice qui, séduite par l'insidieuse promesse du renouvellement de son mobilier, se donna pour thème d'emmener Gazonal chez elle. Or, jamais mouton de fête-dieu ne mit plus de complaisance à se laisser conduire par son Saint-Jean-Baptiste que Gazonal à obéir à cette sirène. Trois jours après, Léon et Bixiou, qui ne revoyaient plus Gazonal, le vinrent chercher à son hôtel, vers 2 heures après-midi. « Eh bien, cousin, un arrêté du conseil te donne gain de cause ?»« Hélas, c'est inutile, cousin, » dit Gazonal, qui leva sur ses deux amis un œil mélancolique. « Je suis devenu républicain. »« Qu'est-ce ? » dit Léon. « Je n'ai plus rien, pas même de quoi payer mon avocate, » répondit Gazonal. « Madame Jenny Cadine a de moi des lettres de change pour plus d'argent que je n'ai de biens. » »« Le fait est que Cadine est un peu chère, mais... »« Oh, j'en ai eu pour mon argent, » répliqua Gazonal. « Ah, quelle femme !»« Allons, la province ne peut pas lutter avec Paris. Je me retire à la trappe. »« Bon, » dit Bixiou, « vous voilà raisonnable. Tenez, reconnaissez la majesté de la capitale. »« Et du capital ? » s'écria Léon, en tendant à Gazonal ses lettres de change. Gazonal regardait ses papiers d'un air hébété. « Vous ne direz pas que nous n'entendons point l'hospitalité. Nous vous avons instruit, régalé et amusé, » dit Bixiou. Paris, novembre 1845. Fin des Comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get 3-pound packs of flavorful 80% lean ground beef for $2.99 a pound with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today.
Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.